Bonjour, Marco, Comte à rebours. Une émission non seulement avec un magnifique générique, mais aussi eh bien, des histoires, des contes, des petites histoires, des plus longues, des blagues, des brèves, des poésies, des mots, de la parole. Et plus particulièrement aujourd'hui, puisque ça va être de la parole sur la parole. C'est compliqué cette histoire de parole, hein. Pour commencer de manière très France culturelle, disons que Ésope a dit « La parole peut être la meilleure et la pire des choses. » On en a posé cette question à un conteur, Michel Hindenock. On lui a dit mais pourquoi ? Et voilà ce qu'il a répondu. Elle est la meilleure et la pire des choses parce qu'elle peut avoir une puissance terrifiante. Elle peut soit tuer, soit mettre au monde. Blesser ou guérir. Malédiction, bénédiction. Et nous sommes tous des apprentis sorciers. J'aime le proverbe qui dit « Si ta parole n'est pas plus belle que le silence, alors tais-toi. » Bon, j'ai une grande tentation là à me taire, mais comme c'est une émission de radio, je poursuis. Avec ce que disait Michel Hindenock, j'aime écouter et j'aime raconter. Parce que la question qu'on lui posait en tant que conteur, c'est préférez-vous conter ou écouter ? J'aime écouter et j'aime raconter. Pour moi d'ailleurs, c'est la même chose. Raconter, c'est écouter à haute voix. Oui, c'est bien dit. Je vais donc continuer à écouter à haute voix. Aujourd'hui, des histoires qui parlent des histoires ou de la parole qui parle de la parole. Tiens, encore quelques petits proverbes. Parce que on dit la parole c'est facile, il suffit d'ouvrir sa bouche et de parler. Oui, mais que dites-vous de ces proverbes ? Si tu n'as pas d'argent, tes paroles sont fades. Oui, l'argent sale, les paroles. Qui peut dire au lion qu'il a mauvaise haleine? Parce que si vous voulez parler, ben, autant dire des choses utiles. C'est André Voisin qui s'interroge sur le temps et la parole, et qui dit « Le temps et la parole ont les mêmes secrets. Il faut bien des mois pour comprendre quand se taire et quand parler. Il faut bien des mois pour tisser, ni lâche, ni serré. » Avec une parole fine, comme une laine, tu fais une surface entière. Tu fabriques un récit avec ses dessins, ses couleurs, et dedans, il y a ton souffle, ton cœur et ta tête. Et oui, de là vient le mot texte, n'est-ce pas ? La parole est un tissage. Eh bien, on va tisser donc aujourd'hui avec des histoires. Alors, je me suis dit, où trouver des histoires qui parlent de parole ? Bien sûr, chez les soufis. J'en ai trouvé beaucoup, mais des petites. Et finalement, j'ai rassemblé quelques histoires qui nous viennent du livre de Jean-Claude Carrière, « Le cercle des menteurs ». Et notamment, tout ce qui a trait, à proprement parler, à ce qu'on peut appeler la fin des contes. On disait un jour à Bandi Nakshband, tu nous racontes des histoires, c'est bien joli, mais tu ne nous dis pas comment les déchiffrer. Et il répondait, que dirais-tu si un homme qui vient te vendre des fruits les consommait sous tes yeux, n'en laissant que la peau et le noyau dans ta main ? Dans le domaine de la parole et des histoires, il y a une question récurrente. Les histoires ont-elles un sens? Parce que parfois, on s'interroge, comme cet homme qui écoutait les histoires que racontait un sage professionnel, on va dire, et voyait qu'elles étaient interprétées tantôt dans un sens, tantôt dans un autre sens, et parfois dans un troisième, et il s'en plaignit à ce sage, à quoi bon dans ce cas raconter des histoires. Et le conteur lui répondit, mais c'est tout ce qui fait leur valeur. Quelle importance accorderais-tu à une tasse où on ne pourrait boire que de l'eau, à une assiette où on ne pourrait manger que de la viande? Et j'ajoute, écoute-moi bien, une tasse et une assiette ont une contenance limitée. Que dire alors du langage qui paraît devoir nous fournir une nourriture infiniment plus large, plus riche, plus variée? La véritable question, ajouta-t-il, n'est pas quel est le sens de cette histoire, ni de combien de manières puis-je la comprendre, ni peut-on la ramener à un seul sens. La question est, cet individu auquel je m'adresse peut-il tirer profit de ce que je vais lui raconter ? Disait donc Michel Hindenock, peut soit tuer, soit mettre au monde. Ainsi en est-il notamment de toutes les formules magiques ou de tous les noms secrets. Un ermite égyptien qui s'appelait Dhul Nun et qui est un grand soufi connu vivait entouré d'un si grand prestige qu'il passait pour connaître tous les secrets des mondes et même le plus grand nom de Dieu. Or, il se trouve qu'il y avait un homme qui désirait connaître ce nom, auquel, bien sûr, la légende prêtait la possibilité d'acquérir des pouvoirs incomparables grâce à ce simple nom. Donc cet homme se mit au service de l'ermite pendant plus d'un an, sans rétribution, en silence, dans la plus parfaite humilité. Lorsqu'une année fut écoulée, l'ermite Dhul Nun lui demanda ce qu'il désirait comme récompense. « Apprends-moi le plus grand nom de Dieu, » dit l'homme. « Oui, je te l'apprendrai. Mais auparavant, j'ai un dernier service à te demander. Reviens au coucher du soleil. » L'homme revint à l'heure dite. L'ermite lui tendit un simple plateau de bois sur lequel était posé un couvercle enveloppé dans un mouchoir. Et lui demanda, « Tu connais Youssouf ?»« Oui, je le connais. Porte-lui ceci de ma part, c'est un cadeau qui ne ressemble à aucun autre. » L'homme prit le plateau sur lequel était posé le couvercle et s'en alla à travers le désert vers la demeure du nommé Youssouf. Chemin faisant, il réfléchissait à ce cadeau qui ne ressemblait à aucun autre. L'envie de connaître la nature de ce cadeau le tourmentait plus que tout au monde. Et finalement, il ne put résister à ce désir. Il posa le plateau par terre, défit le mouchoir et souleva le couvercle. Aussitôt, une petite souris grise ploup, s'échappa. L'homme essaya de la rattraper. Vainement, elle disparut agilement entre les rochers. L'homme se sentit emporté par la colère. Il vitupérait contre Dhul Nun, qui s'était ainsi moqué de lui. Après toute une année de fidèle service, il l'avait simplement chargé de transporter une souris dans le désert. Il revint auprès de l'ermite et lui fit part de son irritation, qui d'ailleurs se manifestait sur son visage rouge, dans ses mains tremblantes. « Je t'ai demandé le plus grand nom de Dieu, et tu m'as jeté dans la dérision ?» Alors Dhul Nun le regarda calmement. Il lui dit, « Comment confier le plus grand nom de Dieu à celui à qui on ne peut pas confier une souris. Ce qu'il reste après l'oubli. Voici maintenant une histoire juive venue de Pologne qui raconte ceci. Dans une petite ville où vivait une communauté juive, existait une cérémonie particulière. Institué il y a bien longtemps, qui se célébrait dans la forêt tous les 30 ans. Un vieux rabbin qui connaissait précisément le rituel de la cérémonie le transmit à sa mort à un autre rabbin. Quand le temps fut venu, celui-ci conduisit un petit groupe de fidèles dans la forêt, à l'endroit précis, et célébra la cérémonie selon le rite exact. Après quoi, tout le monde rentra. Les années s'écoulèrent. Quand le temps de la cérémonie revint, 30 ans plus tard, le rabbin, à son tour, était mort. De la cérémonie précédente, ne restaient vivants que 3 ou 4 fidèles qui partirent dans la forêt, avec quelques néophytes et un autre rabbin. Arrivés dans la forêt, il leur fut difficile de se rappeler l'endroit exact. « C'est dans cette clairière, disait-le. »«
Pas du tout, c'est beaucoup plus loin. »
Ils choisirent finalement un emplacement sans être bien sûr que c'était le bon. Célébrèrent la cérémonie selon les rites et rentrèrent. 30 ans plus tard, ne restaient vivants que quelques-uns des néophytes d'autrefois. Sous la conduite d'un nouveau rabbin, accompagné d'un groupe de jeunes, ils partirent à nouveau dans la forêt. Cette fois, il leur fut impossible de reconnaître même une clairière. Tout avait changé. Tout se mêlait dans leur mémoire. Et même le rite de la cérémonie leur semblait incertain, imprécis. Fallait-il dire cette prière d'abord ou bien cette autre? Ils ne savaient plus. Ils firent de leur mieux et rentrèrent en ville. Mais 30 ans plus tard, un nouveau groupe, guidé par un nouveau rabbin, s'aventura encore dans la forêt. Ils avaient entendu parler d'une cérémonie importante qui s'est déroulée autrefois. Quel jour? On ne savait pas. À quel endroit? Sous quelle forme? Impossible de le dire avec certitude en tout cas. Le rabbin et les fidèles errèrent dans la forêt pendant 2 heures sous la pluie, sans célébrer la moindre cérémonie. Puis, ils rentrèrent et se retrouvèrent à la synagogue. Un des fidèles dit, découragé, « Nous avons tout oublié. » La prochaine fois, ce ne sera même pas la peine de retourner dans la forêt. C'est vrai, dit le rabbin, nous avons oublié tous les détails de la cérémonie. Mais tout n'est pas perdu. Nous avons quand même une bonne raison d'être satisfaits. Pourquoi serions-nous satisfaits, demandèrent les fidèles. Parce que, dit le rabbin, nous pourrons toujours raconter l'histoire. Une très ancienne histoire persane présente le conteur comme un homme isolé, debout sur une falaise, face à l'océan. Elle raconte sans cesse, histoire après histoire, en prenant à peine une pause pour boire de temps en temps un verre d'eau. L'océan l'écoute calmement, fasciné. Et l'histoire rajoute, si un jour le conteur se taisait, ou si on le faisait taire, personne ne peut dire alors ce que ferait l'océan.
Unser Traum.
Nasreddin est de retour. Nasreddin, vous le connaissez, c'est un homme gai, de bonne humeur, en toutes circonstances. Si on lui en demande la raison, il répond d'un ton d'évidence. Moi, je sais ce qu'il y a dans le Coran. Et chacun admet pieusement cette excellente réponse. Un jour toutefois, un jeune homme lui pose la question. Hodja, j'ai étudié le Saint-Coran. Que renferme-t-il donc qui te rende si joyeux ? Des fleurs séchées que ma mère m'a envoyées et une lettre de mon cher ami Abdullah. Nasreddin est en consultation médicale et il pose une question. Un homme de 100 ans est-il encore assez viril pour avoir des enfants ? Bien sûr, lui répond le médecin, mais à une condition. Laquelle ? Que ses voisins aient entre 25 et 30. Un soir, étendu sous un grand chêne, Nasreddin philosophe. Dans quel monde étrange nous vivons ? Que la nature est mal faite, par exemple. Tout marche à l'envers, par exemple. Pourquoi ce chêne énorme porte-t-il ces minuscules glands qui pendent de façon ridicule, alors que la magnifique citrouille se traîne lamentablement à terre comme une tortue ? À ce moment précis, il reçoit un gland sur la tête. « Allah est grand, » dit-il. Compte à rebours, donc, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Vous aurez sûrement remarqué, dans ces histoires de Nasreddin, il y en a une qui a fait l'objet d'un roman. Je ne sais plus comment il s'appelait, et d'un film même là-dessus. Enfin bref, comme quoi, à partir d'une histoire, mais il faut qu'elle soit de Nasreddin quand même, on peut vraiment broder beaucoup. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires. On verra où on voyage. Et c'était Marco. Ciao. Ya Ali, ya.